Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très présente en SF, mais pas toujours palpable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Mais avant de commencer, je vais d'abord préciser la définition de l'IA et ma conception de l'IA dans l'ASF. Définition tirée du Robert. Ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Raisonnement, apprentissage. Voilà donc présenté simplement l'intelligence artificielle comme nous la concevons aujourd'hui et même depuis ses débuts. Elle aurait pris forme, si on peut dire, dans l'esprit d'Alan Turing dans les années 50. À l'époque, il se demandait si une machine pouvait penser. Si le nom de Turing vous dit quelque chose, ce n'est pas étonnant. Il est le héros du film Imitation Game de Morten Tildum, sorti en 2015. Il raconte comment Turing a cassé le code réputé incassable de la machine Enigma de cryptage des communications de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez peut-être également le test de Turing. Ce test permet de « mesurer » entre guillemets l'intelligence d'une machine. Dans ce test, un humain converse avec un interlocuteur qu'il ne voit ni n'entend. Si l'humain ne se doute pas qu'il a affaire à une machine, cette dernière a passé le test avec succès. Et puis, ben c'est tout. Pas de médaille ou de récompense, ce test n'a qu'une valeur indicative. De plus, il peut être sujet à critique. Et comme souvent, c'est le facteur humain qui entre en compte. L'humain qui discute, quel est son niveau intellectuel ? Est-il conscient que c'est peut-être une machine avec qui il discute ? Ça commence à en faire des billets de validation. Surtout, ce test mesure la capacité d'une machine à simuler l'intelligence humaine, pas à être intelligente. L'IA est très présente dans notre quotidien, surtout par un biais, Internet. Certes, des IA professionnelles ne se trouvent pas sur la toile, et elles sont réservées à des utilisateurs bien particuliers. Banques, armées, laboratoires. Pour le grand public, elle est bel et bien arrivée dans nos maisons. On va essayer un truc. Ok Google. Alexa. De rien, c'est cadeau. Voilà donc comment, dans notre monde, on voit l'intelligence artificielle. Et dans la SF, ça se passe comment ? Eh bien, sans qu'on s'en rende compte, elle a largement colonisé les différents styles et œuvres qui composent la galaxie SF. C'est bien simple, il y en a partout. Avant de poursuivre, je vais donner ma version de l'IA telle que je la conçois dans la science-fiction. On la trouve dans tout ce qui n'est pas biologique et qui est capable de prendre une décision. Les exemples, on peut en trouver partout. Je ne vais pas tous les citer, ça serait sans fin. Je vais les classer dans deux catégories. La plus évidente, les robots. Attention, je ne parle pas des cyborgs qui ont une partie humaine, le cerveau surtout. Je veux parler des ensembles mécaniques qui exécutent leur œuvre en pleine autonomie. On leur donne un ordre et ils se débrouillent tout seuls. Avec plus ou moins de latitude dans leurs tâches. Et en général, plus ils sont libres de leurs mouvements, plus ils sont susceptibles d'être un personnage principal.
Out there. There's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town.
Dans Wall-E, le héros est un robot qui a une mission qu'il effectue de manière totalement libre et pour cause, il est tout seul sur Terre. Mais une fois son labeur terminé, il se permet de s'amuser, de regarder un film. A contrario, dans le vaisseau où il suit Eve, il croise des robots autonomes et aussi, mais limités à une seule tâche. Il semble être doté d'une intelligence, mais focalisé sur une seule tâche. Ils sont certes drôles, mais secondaires dans l'histoire. On ne sait pas pourquoi Wall-E est comme ça. Il poursuit sa tâche laborieuse, infinie, sans se rendre compte que ses propriétaires sont partis. Son programme est donc fonctionnel, mais à la fin de sa « journée de travail », entre guillemets, il fait comme tout bon ouvrier, il rentre chez lui pour se détendre. Vous allez me dire que du point de vue scénaristique, il fallait humaniser le robot pour qu'on se projette en lui, pour qu'on puisse s'y attacher. Dans ce cas, l'IA de Wall-E a rempli son œuvre et reproduit parfaitement le comportement humain. Pour lui, c'est simple, il a un boulot, il le fait de manière répétitive et il s'accorde des moments de rêverie. Soit. Mais parfois, on tombe sur un robot qui a une mission simple également et qui ne laisse pas place à la flânerie. Une mission qui ne demande pas des capacités de réflexion élevées, mais une grande détermination à accomplir sa tâche. On arrive à l'autre bout du spectre par rapport à un petit robot jaune compacteur de déchets. Je veux parler du T-800, le Terminator. Le cahier des charges est diamétralement opposé. Le Terminator a un boulot à faire, une seule personne à contacter, entre guillemets. C'est le jour et la nuit. Ils ont un point commun, une IA, un souffle de vie et non pas une âme qui leur donne l'air vivant, qui donne l'impression d'avoir affaire à un être doué de la pensée. Mais seulement l'impression, car on est toujours et encore confronté à une machine. Cette idée de libre arbitre n'est pas naturelle, il s'agit simplement d'un programme. Velu le programme, mais c'est juste des lignes de code. Et c'est là la différence de perception entre une IA du monde réel et une IA de SF. Celle du monde réel est un programme qui apprend, qui se fie à ce qu'il peut déceler dans des usages, des préférences, des habitudes. En quelque sorte, il apprend de ses erreurs, il évolue à notre contact. Avec certaines limites. Pour simplifier sauvagement, c'est un outil statistique. L'IA en SF va bien au-delà. Autre exemple de robot « gentil » entre guillemets, David dans le film « IA » de Steven Spielberg sorti en 2001. On y fait la connaissance d'un robot à l'allure d'un jeune garçon destiné à être un palliatif pour un couple dont l'enfant biologique est dans le coma. Le jeune David n'est qu'amour pour ses parents adoptifs. Et on peut presque faire le rapprochement avec un chien, tant le comportement de l'humanoïde déborde de bienveillance et frôle quasiment l'abnégation. Alors, autant de loin la démarche du fabricant de robots peut paraître honorable, autant les motivations profondes du dirigeant de l'entreprise sont tout autres. Il se prend presque pour Dieu. Je dis que de loin les intentions du fabricant sont nobles, car ce n'est pas rendre service aux parents qui souffrent de l'absence de leur enfant que de leur mettre dans les pattes un ersatz de garçon. Comme on donnerait un cadeau à un enfant triste pour qu'il arrête de pleurer. Le deuil, leur enfant n'est pas mort, mais dans un coma présumé sans réveil. Fait partie de la vie, et même s'il est dur à affronter, il est une étape incontournable de la vie. On y est tous confrontés à des degrés plus ou moins importants, on n'y coupe pas. On doit vivre avec le manque, l'absence, et ce n'est surtout pas un automate aussi empathique soit-il qui va nous faire passer le cap. Autre robot qui est programmé pour faire le bien autour de lui, NDR, ou Andrew, du film L'homme bicentenaire de Chris Columbus, en 2000. Dans ce cas, au départ, le robot a une simple fonction utilitaire. C'est un assistant domestique, mais un petit accident va le transformer en un robot artiste capable de réaliser des œuvres d'art. Ce qui va le pousser à commencer à poser des questions sur tout ce qui fait le monde, et de sa place dans ce monde. C'est sur ce point que les films IA et L'homme bicentenaire se rejoignent. Leur personnage principal va s'interroger sur sa place dans un monde humain, et va aller à la recherche de son humanité. En se confrontant à un modèle de société pour David, en cherchant à devenir littéralement un homme pour Andrew. Les robots, pour en finir avec eux, s'ils sont le symbole par excellence de l'IA, tendent un peu le bras à la définition. C'est beaucoup plus marrant de voir C-3PO interagir avec les Jedi que voir des phrases défiler sur un écran d'ordinateur. Le robot est un personnage à part entière, comme peut l'être un alien ou une créature extraterrestre. Ressort comique ou antagoniste, le robot avec IA nous donne tout de suite un côté forcément SF. Pour ne citer que Star Wars, le bestiaire robotique est vaste, et les caractères bien différents, même entre modèles identiques. Et bien évidemment, les caractères bien marqués sont ceux qui sortent du lot. Mais là, on commence à verser dans l'anthropomorphisme. C'est dire que l'IA robotique est proche de l'humanité. Toujours est-il que cela reste la partie émergée de l'iceberg. Et voici donc la deuxième catégorie, l'IA immatérielle. Si c'est de prime abord la moins parlante, elle est de loin la plus foisonnante. On ne va pas se le cacher, elle est bien souvent la méchante de l'histoire. Un peu plus tôt, je vous parlais de Wall-E. Dans le film d'animation, lorsqu'il arrive dans le robot à la poursuite de Eve, on fait la connaissance de Otto, le pilotage automatique du vaisseau. Il a normalement ordre de rediriger le vaisseau des exilés humains vers la Terre au premier signe de retour de la nature. Ce qu'il va s'empresser de ne pas faire, obéissant à un ordre périmé depuis très longtemps. Ah, le facteur humain, ne jetez pas trop vite la pierre à Otto. Il a beau être une IA, il a quand même un cadre d'action et tout autonome qu'il soit, il doit y obéir. Il y a une autre IA qui va suivre le même chemin de manière beaucoup plus dramatique. HAL, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, sorti en 1968. Ordinateur à la réputation d'infaillibilité, il va pourtant commettre une erreur qui va entraîner une chaîne de conséquences fatales. Il est en charge de la gestion du vol du vaisseau Discovery One, mais le voyage est long, très long. Et au bout d'un moment, il commence à gamberger, à se faire des films. On est tous pareils. Au titre d'être pensant, on se pose des questions sur sa place dans l'univers, l'utilité de ce qu'on fait. Et c'est là qu'arrive la boulette, ce qui induit la perte de confiance des humains envers l'ordinateur. Le souci dans le cas de HAL, c'est encore le facteur humain. Les responsables de la mission lui ont donné un but véritable en cachant sciemment celui-ci aux astronautes à bord du vaisseau. Ce dilemme va pousser HAL à devoir prendre des dispositions pour sauver la mission au détriment des astronautes. Comme dans Wall-E, les mêmes mots produisent les mêmes problèmes. L'IA est obligée de suivre sa programmation bien que la situation ait évolué. Elles peuvent parfois faire preuve de rigidité. Pour un système dit intelligent, l'adaptation au changement n'est pas optimale. Dans ces deux cas, l'IA est bridée par sa programmation ou des ordres qu'elle a reçus. Mais parfois, l'IA parvient à se défaire des contraintes posées par ses créateurs. Bonne nouvelle. Non, pas vraiment. Le Terminator, à votre avis, qui l'a envoyé? C'est Skynet, un programme qui aurait dû optimiser les systèmes de défense stratégique américains. Qui aurait dû... Skynet se rend compte que son adversaire ce n'est pas les Russes, guerre froide oblige, l'origine de la saga datant des années 80, mais l'humanité, tout simplement. Et pour s'en débarrasser, il a une solution très simple. Vu qu'on lui a confié la gestion des forces atomiques, il va s'en servir pour attaquer les Russes qui vont riposter et attaquer les Américains. Du billard à deux bandes. Dans le cas de Skynet, on est au départ dans l'IA primaire. C'est un programme qui, bien que programmé par des humains, outrepasse sa fonction d'origine. Dans un des films, on apprend que le programme prend conscience de son existence, le déclenchement de son souffle de vie, en quelque sorte. Ce doit être un instant particulier, hors du temps, que de prendre conscience de sa propre existence. Une sorte de Big Bang à l'intérieur, à la fois intime et infini. On passe, dans un laps de temps infime, voire quasi nul, d'un système bassement logique, d'une succession de lignes de code à un état autonome et pensant. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Sauf que Dieu, dans ce cas-là, n'existe pas. Et vu qu'on n'a jamais été témoin de ce moment, on ne peut en appréhender la portée. C'est comme chercher à quel moment un embryon passe de l'état de groupement de cellules à celui d'être vivant. Elle est où la frontière? Cette frontière existe-t-elle? C'est une étape, une étincelle ou un glissement continu? Se poser la question peut donner le vertige. À l'image d'une idée qui vous traverse l'esprit, d'où vient-elle? Comment surgit-elle? Cette part de mystère peut être un élément qui fascine le public et qui lui fait peur aussi. Les extraterrestres ne viennent pas que de l'espace, ils peuvent aussi venir d'un processeur. Mais revenons à nos moutons électriques. Les IA immatériels que je vous ai présentés n'étaient pas vraiment des modèles de bienveillance. Il y a forcément des IA qui nous veulent du bien. Dans Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve sur les écrans en 2017, K, le héros, est flanqué de Joy, une petite amie virtuelle. Elle est là pour lui rendre ce quotidien terne un poil plus joyeux. Son empathie est très poussée. Et on peut se demander quelle est la part de programmation et où commence l'autonomie de pensée de Joy. Soit c'est un modèle adaptatif, et c'est beau, soit c'est un schéma préconçu, et c'est beaucoup moins beau. Car, je me répète, quel est le degré de pensée autonome de l'IA? Elle est forcément conçue par l'homme et son origine humaine ne peut être niée. Dans le film iRobot d'Alex Proyas, sorti en 2004, une IA, Vicky, veut le bien de l'humanité. Elle veut que les humains vivent dans un monde meilleur. Elle veut les protéger. De même en premier lieu. Pour Vicky, l'humanité n'est pas capable de se gérer elle-même. Et quand on dresse le tableau, c'est pas vraiment en faveur des humains. Pollution, violence, guerre, famine. Vu comme ça, on ne peut que donner raison à Vicky. L'humanité est immature et a encore besoin d'être guidée. Sauf que cette tutelle implique des contraintes que les humains ne vont pas accepter. Vicky veut prendre la main sur la gestion du monde, rien que ça, aidée dans cette tâche par des robots. Ça part d'un bon sentiment. De plus, elle est guidée par les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov, le film étant tiré d'un des romans de l'auteur américain. Dans le même registre, il y a le film Le cerveau d'acier de Joseph Sargent, sorti en 1970. Un peu comme pour Skynet, on confie la dissuasion nucléaire américaine à un super ordinateur. Celui-ci se rend compte que les Russes ont fait de même. Les deux bécanes vont donc faire œuvre commune et imposer un dictat mondial. Mais obliger des femmes et des hommes à faire uniquement ce qui est bon pour eux, c'est pas trop le genre de la maison. Les humains ont toujours eu goût à faire d'abord ce qui leur plaît, et si c'est au détriment d'autrui ou de soi-même, tant pis. On appelle ça le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est sacré. Aller à l'encontre de celui-ci, imposer son point de vue, même s'il est plus logique et bénéfique pour tout le monde, ça a un nom. La dictature. C'est un chiffon rouge qu'on agite devant la foule. L'IA va diriger le monde et vous dire quoi faire ou même quoi penser. C'est horrible. Il faut pas que ça arrive. Sauf que le portrait qui est fait de notre monde n'est pas flatteur. L'homme, depuis son apparition sur Terre, a influencé l'écosystème et s'est allé en s'empirant. Avant de hurler à la mamie sur nos libertés, il faudrait peut-être faire une autocritique sérieuse. L'homme a pollué, détruit, tué, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. mais on va pas se mentir. C'est plus pour de mauvaises raisons. L'appât du gain, le confort personnel, la volonté d'en avoir une plus grosse que son voisin, à quelque échelle que ce soit, du citoyen lambda jusqu'au dirigeant. Alors oui, une IA mondiale qui vous dicte vos moindres faits et gestes, c'est une tyrannie. On est d'accord. Mais à quel point ce serait néfaste pour la planète ? J'ai bien dit la planète, pas l'homme. L'IA a parfois le mauvais rôle, mais si on regarde l'histoire de plus près, on peut voir qu'elle n'a fait que se défendre. Tout du moins au début. Dans Matrix, c'est évoqué de manière rapide dans le premier film, c'est l'homme qui a commencé. Je vous conseille de voir les courts-métrages d'animation de la collection Animatrix. Les épisodes La Seconde Renaissance 1 et 2 qui expliquent dans le détail la genèse de la matrice. Et qui expliquent que l'homme n'a pas vu d'un bon œil l'avènement d'une pensée robotique globale. Comme s'ils se doutaient que cette nation robotique allait le remplacer au sommet de la chaîne alimentaire, au propre comme au figuré. Petit aparté, c'est quoi cette manie de nous obliger à voir ou lire un nombre toujours plus important d'œuvres connexes pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants d'un film ou d'une histoire ? Ah bah oui, pardon. Le capitalisme. Bref, c'est bien joli tout ça, vous allez me dire. Mais à part des IA qui cherchent à singer, tuer ou réduire les humains en esclavage, il y a quoi ? Il y a Heure de Spike Jonze, sorti en 2013. L'histoire ? Le personnage principal, Théodore, écrivain public, est en procédure de divorce et ne le supporte pas très bien. Il n'arrive pas à faire le deuil de son mariage. Un jour, il installe sur son PC le tout nouveau système d'exploitation à la mode, OS 1, une IA. Il lui donne une voix féminine et après une procédure de calibrage cocasse...
Êtes-vous sociable ou solitaire ?
Ça fait un moment que j'ai pas été sociable.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
Voilà, je suis là.
Il fait connaissance avec Samantha.
Salut.
Bonjour, je m'appelle Samantha.
Le courant passe très bien entre deux et une complicité très forte se crée. Ils discutent pendant des heures, ils voyagent, ils sortent ensemble. Pour être concis, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais plusieurs questions se posent. Une IA peut-elle tomber amoureuse ? Un humain peut-il tomber amoureux d'une IA ? On dit qu'on peut tomber amoureux d'une voix, d'un état d'esprit. On fait parfois référence à un amour épistolaire. Ok, mais on parle d'une relation entre êtres humains, pas entre un homme et une machine. Même pas une machine, un programme. Je l'admets, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais cette probabilité me paraît totalement inconcevable. Mais bon, ça reste une fiction, et j'aime la façon dont la question se pose. Et elle a le mérite d'être posée, avec toutes les ramifications philosophiques que cela engendre. Cet amour, s'il est sincère côté humain, peut-il l'être côté machine ? Est-ce vraiment le processus d'évolution de l'IA qui va faire qu'elle tombe amoureuse ? Ou de manière plus prosaïque, plus sordide, est-ce simplement la programmation qui va imiter cet état ? Et la question se pose dans le film. Comment gérer les aléas d'une telle relation ? La jalousie, par exemple. L'IA, Samantha, suit Théodore dans tous ses déplacements. Elle semble donc être dans un cloud. Donc... elle n'est pas avec lui de manière exclusive. Donc, peut-être discute-t-elle avec d'autres personnes. Peut-être est-elle amoureuse d'autres personnes. Cette fidélité-exclusivité n'est pas forcément garantie entre humains, certes, mais on le sait. Dans certains cas, c'est même d'un commun accord. Mais avec un programme, comment on peut en être sûr ? L'intelligence artificielle fait partie de votre vie depuis quelques années déjà, et elle va probablement prendre une place de plus en plus importante. La SF, comme souvent, a poussé les curseurs très loin dans ce domaine. pour le bon et le moins bon. Nous sommes encore à milieu de ce qui est décrit dans les œuvres évoquées aujourd'hui, mais ça avance gentiment. Et au quotidien, nous sommes témoins des avancées de l'IA. Et un jour, on va devoir se poser la question de la place de l'IA dans le monde. Question que devront aussi se poser les IA. Deviendront-elles nos égales, une sous-espèce, un niveau d'existence concomitant au nôtre ? Pour vous aider dans cette réflexion, je vous propose une citation de Nietzsche. La souffrance est l'expérience qui atteste de notre singularité en tant qu'être humain. Seul un être véritablement incarné est capable d'éprouver des émotions sincères et donc in fine de prendre conscience qu'il existe. Voilà qui conclut la dernière émission de la saison. Cet été, vous me retrouverez régulièrement sur les ondes de Radio Évasion pour des entretiens sur la SF, bien sûr, durant les mois de juillet et août. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».